Donc à célébrer, elle n'a pas d'autre but que de nous faire renaître.
Mais renaître, nous en avons bien besoin aussi personnellement et peut-être aussi communautairement. Alors que notre société, notre pays vit une grave crise sociale, est secouée par une crise sociale, la crise des gilets jaunes, qui déchire et divise notre société, alors que l'Europe connaît le départ d'un de ses membres, le Brexit, et que nous nous apprêtons à vivre des élections européennes, l'Europe est déchirée, notre pays est déchiré, notre continent est déchiré, notre Église est déchirée. Et ici à Lyon, nous ne pouvons pas ne pas y penser. Plus encore, ici à Sainte-Foy-les-Lyons, qui était un des lieux où le tristement célèbre Père Prénat a exercé son ministère. Notre Église est bien malade, avec beaucoup de dysfonctionnements à guérir. Elle est sans doute invitée à vivre un chemin pascal, un chemin de purification, un chemin pour une renaissance. Renaître, c'est donc bien ce que nous avons tous et toutes à vivre, personnellement et communautairement. Mais nous sommes venus ici, à Lyon, pour renaître. Il faut aller à la source. Nicodème, vous le savez, dans l'Évangile, demande à Jésus, un homme peut-il naître deux fois? Peut-il rentrer à nouveau dans le sein de sa mère? Et oui, pour naître, il faut retourner en quelque sorte à l'origine, à la source. Et c'est pourquoi nous vous avons proposé de venir à Lyon, ici, aux sources de la foi, aux sources de l'évangélisation de la foi chrétienne dans notre pays, la France. Vous savez qu'ici, à Lyon, des martyrs ont livré leur témoignage en 177 sous l'empereur Marc Aurèle. Ils ont livré leur vie et, venus du lointain Orient, ce qu'on appelle la Turquie aujourd'hui, l'Asie mineure, pour certains d'entre eux, ils ont suivi des chemins, des routes commerciales sur la mer Méditerranée. Ils sont arrivés vers Marseille et ils ont remonté la vallée du Rhône et ils sont arrivés ici, dans cette cité romaine, la vieille Lugdunum, et ils ont implanté le christianisme. Ces premiers chrétiens, communauté chrétienne qui avait été évangélisée par Saint Paul, l'Asie mineure, la Turquie actuelle, nous ont apporté la foi chrétienne. Lyon est donc, en quelque sorte, le pivot, la source de l'évangélisation de notre belle France. En revenant ici à Lyon, nous sommes donc aux sources de l'évangélisation de notre pays. Et si nous-mêmes, nous voulons nous faire évangélisateurs, nous ne pouvions pas trouver de plus beau lieu que Lyon. À nous donc de vivre ce pèlerinage, car c'est bien un pèlerinage que nous allons essayer de vivre, en particulier cet après-midi, en nous rendant sur un des sites où, en particulier, Potin, je vous en reparlerai, a été lui-même maltraité. Nous aurons l'occasion ce soir de prier au lieu de son cachot, dans le site qu'on appelle l'Anticaille, pas loin de l'amphithéâtre des Gaules. Nous avons donc été ici à Lyon, baptisé dans la foi, plongé dans la foi chrétienne. Et c'est pourquoi Sophie Delay, que vous voyez que son appareil, là, elle se promène, nous a fait une très belle affiche. Vous voyez le baptême du Christ, parce que c'est ici à Lyon que nous-mêmes, nous avons été baptisés dans la foi. Et elle a très bien disposé les marches, qui sont en fait l'amphithéâtre des Gaules, alors que nous n'irons pas visiter, mais vous l'apercevrez, puisque les bus nous déposeront à la hauteur de l'amphithéâtre des Gaules, avant que nous descendions, nous fassions quelques pas pour nous rendre à l'Anticaille. C'est comme une piscine baptismale. L'amphithéâtre des Gaules est devenu une piscine baptismale, où, en quelque sorte, nous sommes descendus aussi un peu dans cette arène, où certains ont vécu un baptême de sang, les martyrs, et nous-mêmes, revenant dans ces lieux, nous nous rappelons notre propre baptême. pèlerinage, je vous disais, nous allons le vivre sur les traces non seulement des martyrs de Lyon, mais aussi des disciples d'Emmaüs, qu'on appelle aussi si bien les pèlerins d'Emmaüs. Ce sont bien deux pèlerins, et ce sont eux que nous allons suivre ce matin. Nous allons suivre leurs traces à ces deux pèlerins d'Emmaüs qui vont nous conduire sur un pèlerinage de renaissance. Car au soir de Pâques, qu'est-ce qu'ont vécu ces deux disciples d'Emmaüs si ce n'est une renaissance, un chemin de renaissance qui les a conduits aux sources de la foi. Alors, emboîtons le pas de nos deux disciples d'Emmaüs et emboîtons le pas de nos chers martyrs de Lyon. Nos disciples d'Emmaüs ont suivi un chemin en quatre étapes, et c'est ces quatre étapes que je vous propose de parcourir ce matin, à leur suite et à la suite de nos martyrs de Lyon, que nous irons visiter cet après-midi. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. Notre chemin, comme celui des disciples d'Emmaüs, est souvent un chemin de tristesse. Oui, nos deux disciples s'arrêtèrent tout tristes. Eux qui avaient vécu une belle aventure à la suite de Jésus, ils avaient peut-être quitté aussi leur Galilée, ils avaient suivi leur maître dans un parcours enthousiaste à la suite de ce Jésus, grand prédicateur, grand guérisseur. Et puis, leur chemin enthousiaste est devenu chemin de dépit, de tristesse, de déception. Et ils quittent Jérusalem. Et quittant Jérusalem, ils s'éloignent au fond de la source. Ils font le chemin inverse de celui que nous essayons de faire ici en revenant à Lyon, aux sources de la foi. Ils s'éloignent des événements qui vont devenir les événements fondateurs de la foi chrétienne. Jérusalem, lieu de la mort et de la résurrection du Christ. Nos martyrs de Lyon, eux aussi ont vécu ce chemin d'Emmaüs. Ils avaient vécu aussi une belle aventure. Ils ont quitté, comme je vous l'ai dit, leur Orient pour venir ici en Gaule. Aventure enthousiasmante qui vous est en quelque sorte narrée sur la frise que je n'ai pas encore commentée, qui est en bas de cette belle affiche. Et cette frise, vous la verrez demain, je vous invite à la regarder demain quand nous irons célébrer la messe à la basilique de Fourvière. Vous verrez la belle mosaïque des martyrs de Lyon, c'est la première mosaïque à droite en entrant dans la basilique. Ici, elle vous est présentée en plus petit, ceux qui ne voient pas bien, vous pourrez vous approcher tout à l'heure. Et vous voyez le départ de ceux qui deviendront les martyrs de Lyon de l'Asie mineure. Vous voyez en particulier complètement à gauche l'apôtre Saint Jean avec son aigle. Et tout de suite, à droite, le vieux Polycarpe de Smyrne, l'évêque de Smyrne, donc en Asie mineure, la Turquie actuelle, qui envoie, un peu plus à droite, près d'un bateau, Potin, qui deviendra le premier évêque de cette ville de Lyon où nous nous trouvons. Et encore plus à droite, Irénée, nous sommes dans l'amphithéâtre Saint-Irénée, qui sera le successeur de Potin. Ici, les premiers chrétiens sont envoyés, et ils sont envoyés pour une belle aventure. Ils quittent leur chez-eux pour venir ici en Gaule, prenant un bateau, et vous avez en arrière-fond le forum Vétus, Vous savez que Fourvière veut dire Forum Vetus, le vieux forum. Et c'est ce que vous voyez, la colline de Fourvière, au fond, avec le vieux forum de cette vieille Lugdunum, où ces chrétiens vont arriver. Vous avez en quelque sorte au premier plan leur point de départ, et en arrière-plan leur point d'arrivée. Et après Irénée, vous avez la suite de tous les évêques, enfin d'un certain nombre d'évêques de Lyon, jusqu'à l'évêque cardinal qui porte Notre-Dame de Fourvière, donc au moment de la construction de la basilique. Vous voyez donc que l'église de Lyon est presque de fondation apostolique, puisque par l'apôtre Jean, en quelque sorte, qui a connu Polycarpe, et Polycarpe qui a connu Potin et Irénée, eh bien il y a presque une connexion directe avec l'apôtre Jean qui lui-même a connu Jésus. Ce qui vaut à l'archevêque de Lyon ce titre un peu pompeux de primat des Gaules. Eux aussi, donc, ils ont quitté, comme les disciples d'Emmaüs, ils ont quitté leur Orient, comme les disciples d'Emmaüs ont quitté leur Galilée avec enthousiasme. Et leur chemin de joie est devenu chemin de tristesse. Car en 177, l'empereur Marc Aurèle va décréter une persécution contre les chrétiens qui ne veulent pas se soumettre aux célébrations civiles. En effet, il devait rendre sur ce forum de Fourvière un culte fédéral de Rome et d'Auguste. On célébrait Rome, vous voyez, presque comme une divinité, et un culte à l'empereur. Or, les premiers chrétiens ne voulaient pas apostasier leur foi en rendant un culte à un autre kurios, en grec, un autre seigneur, que leur seigneur Jésus-Christ. Il y avait ici, à Lyon, un sanctuaire fédéral qu'on appelait le sanctuaire fédéral des Trois Gaules. Et ne voulant pas se soumettre à ce culte de Rome et d'Auguste au mois d'août 177, eh bien, les chrétiens ont été martyrisés par l'empereur Marc Aurèle. Leur chemin de joie, leur chemin enthousiaste, est donc devenu chemin de tristesse. Nos équipes du Rosaire, elles aussi, elles ont vécu un beau chemin enthousiaste, comme nos disciples d'Emmaüs et nos martyrs de Lyon. Fondée en 1955 par notre cher Père Ekhem, reconnue par l'Épiscopat en 1967, puis par l'Ordre des Prêcheurs, l'Ordre des Dominicains en 1972, notre beau mouvement a vécu une belle croissance enthousiaste. De 1955 à peu près au milieu des années 90, où notre mouvement a atteint à peu près 140 000 membres. Et depuis lors, depuis à peu près 25 ans, notre mouvement connaît une baisse régulière, mais certaine, qui pourrait nous aussi rendre nos tristes mines, comme les disciples d'Emmaüs. Ça pourrait nous faire nous arrêter, tout tristes, dépités. Où allons-nous ? Sur des chemins de mort ? Est-ce que notre mouvement va mourir, s'arrêter après une si belle croissance ? Nous aussi, nous pourrions passer, comme nos disciples d'Emmaüs, de la tristesse, de la joie, à la tristesse de la décroissance. Mais nos disciples d'Emmaüs ne sont pas seuls sur ce chemin, et nous-mêmes, nous ne sommes pas seuls. Sur ce chemin, il nous faut, comme eux, nous laisser rejoindre. Ce chemin d'Emmaüs, il est souvent un chemin, et peut-être d'abord un chemin de la fraternité blessée. En effet, si vous regardez bien ce texte d'Emmaüs, des disciples d'Emmaüs, il renvoie au fond à une première promenade fraternelle dans la Bible. Première promenade du premier couple fraternel, Caïn et Abel. Et en Genèse 4:8, Caïn avait dit à son frère Abel, « Viens, sortons à la campagne !» Et quand ils furent à l'abri des regards, on sait ce qui arriva. Caïn tua son frère Abel. Ici, nos deux disciples semblent reprendre un peu le même chemin. Ils s'éloignent de la ville pour la campagne. Où va conduire ce chemin ? Ces deux frères qui s'éloignent de la ville pour la campagne vont-ils être conduits au fratricide originel ? Jésus, en les rejoignant sur leur chemin, et en les arrêtant, ils s'arrêtèrent, nous dit le texte tout triste, veut comme les empêcher de continuer à s'avancer sur ce chemin du fratricide originel. Il veut en quelque sorte réorienter leurs pas, faire que ce chemin de fraternité blessée devienne un chemin de fraternité retrouvée. Nos martyrs de Lyon, eux aussi, avaient fraternisé avec ceux qui les avaient accueillis ici en Gaule, d'autres païens, avec qui ils faisaient commerce, avec qui ils entretenaient toutes sortes de relations. Or, c'est eux-mêmes, ceux avec qui ils vivaient, qui les ont martyrisés. Le chemin est devenu aussi chemin de fratricide, d'une certaine façon. On tue son frère, avec qui on entretenait pourtant des relations paisibles. Il est intéressant de remarquer que, dans les premiers siècles, on ne parle jamais d'un martyr au singulier, mais des martyrs. Au fond, quand on célèbre un martyr dans l'Église ancienne, on ne célèbre jamais un héroïsme individuel, mais c'est toujours la mémoire d'une épreuve vécue en commun par quelques compagnons. Et c'est toujours un peu un abus de langage que de parler du martyr de Polycarpe de Smyrne, dont je vous ai parlé, qui a été martyrisé 17 ans avant le martyr de Lyon, en 160, vers l'an 160. En réalité, quand Polycarpe a été martyrisé, il a été martyrisé avec d'autres frères, 11 frères. Saint Justin à Rome, on parle parfois du martyr de Saint Justin, Justin a été martyrisé avec 7 de ses élèves de philosophie. Vous savez que Justin était philosophe, et il avait des élèves, il n'a pas été martyrisé seul. Le chemin des martyrs a été rarement un chemin individuel. C'est toujours l'aventure d'un compagnonnage fraternel. Il ne s'agit jamais, oui, de personnes individuelles, mais d'une communauté de frères. Et parmi ces frères, ici à Lyon, loin de vous parler d'une fraternité désincarnée, à Lyon, en dehors de nos 47 martyrs de Lyon, il y a eu aussi une dizaine d'arrêtés avec eux qui ont été renégats, qui ont renié leur foi, et donc qui se sont séparés de leurs frères. Mais il est intéressant de remarquer que parmi ces 10, une certaine Bildis, eh bien, a finalement reconfessé sa foi et s'est rapproché de ses frères chrétiens. La fraternité, le retour à la fraternité, est au fond toujours possible. Bildis a pu rejoindre ses frères chrétiens, en quelque sorte. On peut, d'une certaine façon, s'en séparer, mais on peut toujours y revenir. C'est peut-être ça que Jésus dit à nos deux disciples d'Emmaüs sur leur chemin. Alors qu'eux semblent s'aventurer sur les chemins du fratricide originel, eh bien, Jésus les rejoint pour les aider à renouer les chemins de la fraternité perdus. Dans nos équipes du Rosaire, comme le groupe des premiers chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Et nos deux disciples d'Emmaüs nous font penser à nos deux binômes qu'à tous les niveaux de responsabilité dans notre mouvement, nous essayons de vivre. Au plan diocésain, toujours un responsable et un aumônier diocésain. Au plan régional, un responsable régional et un aumônier régional. Et au plan national, une responsable nationale et un aumônier national. Nos deux disciples d'Emmaüs nous font un peu penser à nos binômes fraternels qui ne sont rien d'autre qu'un service de la fraternité au sein de nos équipes. Si nous ne sommes pas capables de vivre dans notre binôme de responsabilité la fraternité, nous ne pourrons pas la servir auprès de nos frères qui nous sont confiés. Nous ne sommes pas des concurrents, mais des partenaires. Et c'est peut-être de cela que Jésus veut les libérer en s'approchant d'eux sur leur chemin. Il veut les libérer de la concurrence pour faire d'eux des partenaires. Nos deux disciples parlent ensemble sur le chemin d'Emmaüs, mais ils se laissent rejoindre par Jésus. Parfois, dans nos binômes, nous parlons ensemble. On a tant de choses à faire, organiser les conseils diocésains, régionaux, nationaux. On parle ensemble, on échange, on converse comme nos deux disciples d'Emmaüs. Mais souvent, il y a un grand absent de nos conversations, c'est Jésus lui-même. Est-ce que nous le laissons s'avancer vers nous et nous rejoindre dans nos conversations? Parfois, nous pensons à organiser nos conseils, nos rassemblements, tout ça est très bien et nécessaire, mais nous oublions parfois tout simplement celui qui nous rassemble. Or, sans lui, nous ne pouvons pas être frères. C'est bien le chemin que vont prendre nos deux disciples d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs, c'est pas simplement toi et moi, c'est toi, moi et Jésus au milieu de nous qui marche avec nous pour nous rendre frères, pour faire de nous des frères. Vivre un conseil national, c'est donc un peu s'arrêter comme nos deux disciples d'Emmaüs. Ils s'arrêtèrent. Prenons un temps d'arrêt. Ces deux jours ensemble, arrêtons-nous pour savoir où nous voulons aller. Vers la fraternité déchirée, le fratricide, au contraire, vers le service de la fraternité, vers le service de la réconciliation. Si nous ne sommes pas capables de vivre la fraternité ensemble, dans nos binômes fraternels, nous ne pourrons pas la servir au sein de notre mouvement. Ce à quoi il nous faut donc toujours renaître, puisqu'il faut renaître, c'est peut-être d'abord et avant tout à la fraternité. Or, la fraternité, ce n'est pas un bel idéal désincarné, c'est un apprentissage permanent. On ne sait pas vivre en frère, on a toujours à apprendre à le devenir, à l'être. Nos deux disciples d'Emmaüs, ils conversent et le Christ s'approche et marche à leur tempo. Devenir frère, c'est cela. On ne peut pas être frère sans parler, sans échanger entre nous. Il faut être en conversation permanente. Tant que l'autre peut encore nous parler, tant qu'on lui ménage des espaces pour venir nous parler, même s'il y a eu un malentendu, eh bien, le chemin de la fraternité est toujours ouvert, toujours possible. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, ici, le Christ s'approche et en quelque sorte, il n'était pas là au début. Alors, il a dû un peu accélérer, vous savez, pour rattraper les deux disciples. Et puis ensuite, il s'est remis à leur rythme pour marcher avec eux. Vivre la fraternité, c'est apprendre à marcher au tempo de l'autre. Et je vous assure que ça n'est pas facile. J'ai déjà perdu une ou deux fois Françoise dans le métro ou dans les gares. Marcher ensemble, ça n'est donc pas chose facile physiquement parce qu'on a notre propre rythme de marche physique. Et vous savez, vous faites un effort pendant quelques secondes et puis tout de suite votre corps reprend son rythme naturel. Et donc vous êtes en train de lâcher l'autre. Quand on marche en groupe, vous savez, j'ai parfois des marches, moi, dans le désert ou avec des étudiants, et bien, on voit tout de suite le groupe s'étirer parce qu'il y a ceux qui marchent à un certain rythme, d'autres à un autre rythme, et puis les derniers qui sont un peu plus lents. Et on voit tout de suite le groupe s'étirer et se former en groupe parce que tout le monde ne marche pas au même tempo. Et nous avons à apprendre cela. C'est tellement difficile au plan physique parce que notre corps reprend le dessus, reprend ses habitudes naturelles. Et c'est vrai aussi au plan intellectuel, au plan spirituel. On ne comprend pas les choses au même rythme, au même tempo. Et voyez, le Christ sur le chemin d'Emmaüs, eh bien, d'une certaine façon, il s'approche de nos deux disciples pour apprendre à marcher à leur rythme, à leur tempo, pour parler avec eux, s'inviter au milieu de leur conversation. Il n'y a pas de fraternité possible sans parler ensemble, sans converser ensemble, sans échanger, sans communiquer ensemble.
il n'y a pas de fraternité possible sans essayer d'épouser le rythme de l'autre, d'apprivoiser le rythme de l'autre. Nos martyrs de Lyon, eux aussi, ils sont restés soudés dans la persécution et ils ont appris à vivre au rythme des autres. Eux qui ne croyaient pas encore, les païens qui habitaient cette ville de Lyon, eh bien ils sont, nos martyrs de Lyon, restés frères de leur bourreau jusqu'au bout. Ils ne comprennent pas encore notre foi, ils ne nous entendent pas, ils nous font du mal, ils nous martyrisent, mais nous continuons à les aimer, à les respecter. Je vous cite un extrait de la lettre que Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, nous relate. Et c'est grâce à lui, Eusèbe de Césarée, que nous connaissons ce martyr et ce témoignage des premiers chrétiens de cette ville de Lyon. Il dit « Les sévices innombrables que leur infligeait la foule entière, ils, donc les martyrs, les supportèrent généreusement. » Ils furent insultés, frappés, traînés par terre, pillés, lapidés, emprisonnés ensemble. On leur fit subir tout ce qu'une multitude déchaînée a coutume de faire contre des adversaires et des ennemis, mais eux les considéraient toujours comme des amis et des frères. Quand nous allons nous rendre ce soir au site de l'Anticaille, dans le cachot de Saint-Potin, eh bien, nous nous rendrons dans un de ces lieux de la fraternité blessée, mais toujours possible. Potin y a été maltraité, martyrisé, c'est là qu'il est mort, puisqu'il n'ira pas à l'amphithéâtre des Gaules, d'abord parce qu'il avait le statut de citoyen romain, et donc il n'avait pas à mourir dans l'amphithéâtre sous le croc des bêtes, mais aussi parce qu'il était déjà très âgé, et il a été tellement maltraité, traîné par les cheveux le long des rives de la Saône, qu'il est mort... Eh bien, des sévices que lui ont fait subir ses bourreaux dans ce cachot où nous nous rendrons ce soir. Mais Potin a toujours, comme Blandine et d'autres, considéré que même ceux qui leur faisaient du mal demeuraient toujours des frères. Un chemin de fraternité était toujours possible. Mon frère ne va pas au même rythme que moi, il n'a pas encore découvert le visage du Christ, mais je respecte son rythme. Je me mets à son tempo. Pour autant, je ne le juge pas, je ne le condamne pas, je ne lui interdis pas d'accéder à moi. Il peut toujours venir. La route est ouverte. Le chemin de la fraternité blessée peut toujours devenir un chemin de fraternité réconciliée. Dans nos équipes du Rosaire, et comme nous sommes tous et toutes des responsables diocésains ou régionaux, être responsable, c'est passer son temps à gérer des conflits. L'absence de conflit n'est pas la paix véritable. Vous savez, parfois, on ne se dit rien, on ne dit rien, et on pense qu'on vit en paix. En fait, on n'est pas d'accord. Peut-être que la crise sociale que nous traversons dans notre pays, on pensait être dans un pays... où on a tout ce qu'il faut, on vit en paix, une démocratie, tout le monde a l'air de s'entendre, bien à un moment donné, les choses n'ont pas l'air si simples. Et si on se parlait, alors on organise des grands débats conflictuels, contradictoires. Mais cela est nécessaire pour construire une fraternité véritable et pas une fraternité idéalisée. Non pas une fraternité de façade. Apparemment, extérieurement, tout est lisse, il ne se passe rien. Mais une fraternité réelle est nécessairement. Construire une fraternité réelle, c'est accepter, intégrer qu'il y ait dans nos relations humaines, et c'est inévitable, une forme de conflictualité. Travailler ensemble, c'est toujours, d'une certaine façon, se frotter à l'autre. Et vous voyez, quand on frotte deux choses, il y a un échauffement. Quand je frotte mes deux mains l'une contre l'autre, ça se réchauffe. Alors c'est à nous, responsables, d'essayer de baisser la température. Mais vous voyez bien que être responsable, c'est si nous avons été nommés responsables, c'est pas parce qu'on avait tous les bagages théologiques, c'est pas parce qu'on était ceux qui priaient le mieux, c'est pas parce qu'on était mieux que les autres, c'est tout simplement parce que on a été repéré comme une personne qui est capable de construire la communion autour d'elle. C'est ça notre job. C'est ça notre charisme de responsable. Si nous avons été appelés à cette responsabilité, c'est parce qu'on a été, pas sur nos diplômes, pas sur nos diplômes en théologie ou nos capacités, les formations qu'on a reçues, mais parce qu'on s'est dit, tiens, cette personne, elle va être capable de construire l'unité au sein de notre mouvement, dans son diocèse, dans sa région. Tous et toutes, d'une certaine façon, nous sommes des responsables de la communion. Et nous avons, à ce titre-là, à gérer toujours une forme de conflictualité inhérente aux rapports humains véritables. Nous nous sommes donc laissés rejoindre dans une première étape sur notre chemin. Un chemin de tristesse, parce que chemin de la fraternité blessée, chemin du fratricide originel, mais qui peut devenir chemin de la fraternité réconciliée, renaître à la fraternité, qui est un apprentissage permanent. Sur ce chemin, il va nous falloir, comme nos deux disciples, apprendre à entendre l'inouï. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Sur ce chemin d'Emmaüs, nos deux disciples, en se laissant rejoindre par Jésus, en conversant avec lui, vont apprendre à entendre l'inouï. L'inouï, c'est au sens propre, ce qui n'était pas ouï, ce qui n'était pas entendu, ou ce qui était mal entendu. Sortir d'un malentendu. Entendre l'inouï, c'est peut-être d'abord et avant tout entendre notre nom. Vous venez de l'entendre dans l'évangile de Luc. Cette deuxième étape commence par l'un des deux, nommé Cléophas. Quand j'ai laissé le Christ s'approcher de moi et que je parle avec lui, que je lui réponds, c'est alors que je découvre qui je suis. C'est alors que mon nom peut se dévoiler. Alors qu'au début, nous ne connaissions pas le nom des deux disciples, tiens, un nom se révèle. Quand je laisse le Christ s'approcher de moi et parler avec moi, que je parle avec lui, mon nom se révèle. Je dis qui je suis. Et Cléophas, ça veut dire en grec, célébration d'une étoile. Ah, c'est beau ça. Quand une étoile se lève, eh bien on la célèbre d'une certaine façon. Manifestation stellaire. Voyez qu'au terme de l'évangile de Luc, une étoile se lève, cachée. Au début de l'évangile, une étoile s'était levée, l'étoile de Bethléem, pour annoncer une naissance. Ici, une autre étoile est en train de se lever pour annoncer une renaissance. La Pâque que vont vivre les deux disciples, C'est une lumière stellaire. Ce n'est pas la lumière du soleil, ni celle de la lune. Comme une petite étoile qui brille dans la nuit. Elle n'éclaire pas grand-chose, mais elle brille quand même, annonçant une lumière plus grande qui va se lever. Vous savez qu'une étoile brille longtemps après qu'elle soit morte. C'est la lumière de l'étoile par-delà la mort. La lumière plus forte que la mort. La lumière qui dit que nous ne sommes jamais morts. Que la vie est toujours plus forte que la mort. Dans la vie de Cléophas, comme dans chacune d'entre nos vies. Parmi les martyrs de Lyon, dont nous connaissons les noms, le responsable de cette communauté, l'évêque, le chef, le responsable, le premier, d'une certaine façon, de la communauté chrétienne de Lyon, s'appelle Potin, Saint Potin. Potin en grec, poteinos, veut dire désiré. C'est le désiré. Il ne porte plus beaucoup ce nom. Il y a des désirés. Il y avait des désirés ou des désirés. J'en connais un quand même. Un prêtre qui s'appelle Désiré. Ça ne se porte plus beaucoup, mais c'est Potin, c'est Désiré, Saint Désiré. Et Potin, c'est un peu un surnom. Potin a été surnommé Potin parce qu'il a été désiré par la communauté chrétienne qui le désirait ardemment comme responsable, comme acteur de communion. Et donc, il a été surnommé Désiré. Mais Désiré, c'est peut-être notre nom, chacun à chacune d'entre nous. Vous voyez, c'est un nom qu'il n'a pas choisi, qu'il a reçu de sa communauté, comme un surnom reçu d'un autre. C'est toujours par l'autre que je découvre vraiment qui je suis. C'est par les autres que l'on découvre qui on est vraiment. C'est quand Jésus nous appelle par notre nom que nous découvrons qui nous sommes. Ce à quoi nous sommes appelés, ça s'appelle une vocation. Un appel vocaré. Eh bien, chacun d'entre nous, de ce point de vue, a vocation à être un désiré. Toutes et tous, nous sommes désirés de Dieu. Le Christ désire notre vie, que nous vivions. Il ne désire pas notre mort. Dans nos équipes du rosaire, nous aussi, comme Cléophas dont le nom se dévoile, comme Potin qui porte le si beau nom de Désiré, nous apprenons à être appelés par notre nom. Parfois on nous dit, mais ne pourrions-nous pas tout simplement rassembler notre équipe dans l'église et dire c'est le premier vendredi du mois devant la statue de la Vierge à l'église du village? Non, parce que bien sûr des gens pourraient venir, passer, s'asseoir, mais ils ne formeraient pas équipe avec nous. Il resterait anonyme. Notre but, c'est bien de fonder, de construire des équipes où chacun est appelé, reconnu par son nom, où chacun est désiré par l'autre. Et s'il n'est pas là, il nous manque. L'autre, dans nos équipes du rosaire, devrait toujours s'appeler Désiré, ou Cléophas, petite étoile, la petite étoile qui nous manque. Et puis, le fait que nous ne connaissions pas le nom de l'autre disciple d'Emmaüs nous dit que dans ce texte, il y a une place pour que j'y glisse mon nom. Comme dans nos équipes du rosaire, il y a la chaise du prochain. L'autre est attendu pour y mettre son nom, son visage. Cela dit aussi peut-être que même si je suis appelé par mon nom, il y a toujours une part d'inconnu qui demeure en moi. Je ne peux jamais être enfermé dans ce que les autres pensent connaître de moi. Et vivre en équipe, c'est vivre ce compagnonnage fraternel comme les disciples d'Emmaüs, où nous n'avons jamais fini d'apprendre à nous connaître les uns les autres, d'apprendre à nous désirer les uns les autres, d'apprendre à reconnaître la petite étoile, le petit Cléophas qui brille dans le cœur de l'autre. Entendre l'inouï, c'est donc apprendre à être appelé par son nom, à se découvrir soi-même. Mais ça concerne aussi l'autre. Entendre l'inouï, c'est pas simplement découvrir qui je suis, c'est aussi m'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à l'étranger. Vous l'avez entendu dans le texte de nos deux disciples. Cléophas et son compagnon lui dit « Tu es bien le seul étranger » en parlant à Jésus. Jésus est ici considéré comme un étranger. « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem. » Alors, Jésus réside à Jérusalem, il est de chez nous et en même temps, il n'est pas tout à fait de chez nous. Il est familier et en même temps, il est étranger. Jésus est résident de Jérusalem, mais s'il est résident de Jérusalem, ça n'est plus la Jérusalem de la terre, c'est la Jérusalem d'en haut, celle où tous les hommes sont frères. Quelle que soit leur origine culturelle, quel que soit l'autre, l'étranger, son degré d'étrangeté par rapport à moi, d'une certaine façon, le chemin d'Emmaüs m'invite à m'ouvrir à cet étranger-là qui s'invite sur mon chemin. Ce qui est frappant dans la première communauté chrétienne de Lyon, c'est de découvrir que cette communauté était faite d'une grande diversité d'origines, de statut et de profil sociologique. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi ces chrétiens, beaucoup venaient d'Orient, certains d'Asie mineure, d'autres d'Arménie, mais certains avaient des noms latins, donc venaient de la partie occidentale de l'Empire. Il y a des noms latins. Blandine, d'ailleurs, est peut-être une esclave romaine. Potin, lui, je vous l'ai dit, était citoyen romain. Il y avait des anciens esclaves affranchis, des esclaves, des citoyens romains. La première communauté chrétienne de Lyon est caractérisée par une grande diversité d'origines sociales, de statuts. Certains sont citoyens, d'autres ne le sont pas. On pourrait dire aujourd'hui, de manière plus contemporaine, de profils sociologiques. À l'heure où la paroisse territoriale est profondément affaibli dans notre Église. Vous savez que la paroisse territoriale, c'était la paroisse du quartier, et on vit sur un territoire, c'est ma paroisse, j'y vais. Du coup, je ne choisis pas ceux qui y sont. J'apprends à partager le pain le dimanche avec des gens que je n'ai pas choisis, qui se retrouvent à côté de moi. Et j'apprends à vivre la fraternité avec eux. Je ne les ai pas choisis, mais j'apprends à les recevoir comme frères. Aujourd'hui, ce que vit notre Église, c'est un grand affaiblissement de cette paroisse territoriale et les chrétiens ont tendance à se retrouver dans des groupes beaucoup plus affinitaires. Ah, je veux avec tel groupe parce que je m'y sens bien, je m'entends bien, j'ai la même manière de prier qu'eux. Notre Église est aussi en voie d'une certaine façon parfois de sectarisation. Elle se coupe dans des petits groupes parce que nous n'avons plus l'objectivité d'un territoire où nous retrouver. Et donc, nos communautés chrétiennes deviennent de plus en plus des communautés électives. On se choisit et souvent on choisit les mêmes que soi. Ça n'était pas le cas de la première communauté chrétienne de Lyon. Grande diversité sociologique qui nous montre que le christianisme était vraiment universel. Il parlait à tous, à l'esclave comme au maître, aux citoyens romains comme à l'esclave, aux Gaulois comme à l'Arménien. Chacun était frère d'une même communauté. Le Christ dépassait nos appartenances culturelles, sociales. Au fond, l'horizon de la première communauté chrétienne était vraiment un horizon multitudiniste. Pour la multitude, nos équipes du Rosaire devraient, à l'image de cette communauté chrétienne de Lyon, devraient être non pas tant des groupes électifs ou affinitaires que des cellules qui honorent cette dimension multitudiniste de l'Église. Dans nos équipes du Rosaire, nous cheminons en équipe pas tant parce que nous nous sommes choisis. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est le Christ qui nous a choisis pour nous faire vivre en frères, alors que nous ne nous sommes pas choisis les uns les autres. Nos équipes du Rosaire ne devraient pas être des groupes affinitaires, mais à l'heure où l'Église vit un véritable affaiblissement de sa paroisse territoriale, Je voudrais faire le rêve que nos équipes du Rosaire reprennent le relais de ce qu'étaient autrefois nos paroisses territoriales. Des groupes où tous et toutes, quelle que soit son origine, sa condition sociale, puissent y être accueillis en frères, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, son orientation sexuelle, sa carte de séjour ou non. Chacun devrait pouvoir y être accueilli en frère, quel que soit son degré d'étrangeté. Et les premiers chrétiens ici à Lyon étaient doublement étrangers, puisque beaucoup venaient ou de Rome, ou d'Asie mineure, ou d'Arménie. Et en plus, le fait d'être chrétien ajoutait à cette étrangeté, à cette altérité. Nos équipes du Rosaire ne devraient pas être des groupes affinitaires ou réservés à une simple élite sociale ou culturelle ou même spirituelle. Si nous nous efforçons de maintenir dans notre feuillet mensuel une catéchèse simple et profonde, c'est pour que cette catéchèse puisse parler à tous. À tous, quelle que soit sa condition sociale, du plus simple à la personne qui a le plus gros bagage culturel, que tous puissent s'y retrouver. Et c'est tout un travail, vous l'imaginez bien. Garder la simplicité et la profondeur de notre feuillet mensuel pour que tous puissent s'y retrouver et que nos équipes du Rosaire ne deviennent pas un petit groupe élitiste où on est bien entre soi. Entendre l'inouï, c'est entendre mon nom, qui je suis. Mais c'est aussi m'ouvrir à l'étranger, entendre l'autre que je n'entends pas, l'étranger que j'ai parfois du mal à accueillir. Mais entendre l'inouï sur ce chemin d'Emmaüs, c'est aussi peut-être entendre une parole que je porte et à laquelle pourtant je ne crois pas. Au fond, c'est apprendre à entendre l'autre qui parle en moi. Entendre l'inouï, c'est apprendre à découvrir qui je suis et que je n'entends pas mon nom. Entendre l'inouï, c'est apprendre à entendre qui est l'autre, l'étranger que j'ai parfois du mal à accueillir. Mais c'est aussi entendre l'inouï, apprendre à entendre l'autre en moi, l'autre qui parle à travers moi et que je n'entends pas. C'est le cas de nos deux disciples sur leur chemin. Car les deux disciples d'Emmaüs, en répondant à la question de Jésus, quels événements ? Jésus fait un peu le naïf, voyez. Il leur donne la parole pour les faire parler. Eh bien, nos deux disciples racontent certes leur espérance déçue, et cet imparfait fait mal. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, il fait mal, cet imparfait. On sent leur espérance tellement déçue, nous espérions. Et en même temps, quelques-uns de notre groupe sont allés au tombeau. Et des femmes aussi, elles ont croisé des anges qui disent qu'il est vivant. Nos deux disciples d'Emmaüs sont certes dépités, mais ils portent en eux la parole de la résurrection, la parole de la renaissance, sauf qu'ils ne l'entendent pas. C'est un inouï pour eux. Ils portent le témoignage de leurs frères, disciples, qui eux sont allés au tombeau. Ils portent le témoignage, la rumeur de la résurrection, car ça n'est encore qu'une rumeur. Au fond, certes, ils ont le dépit de la mort, mais ils portent aussi la rumeur de la résurrection. Et sans le savoir, ils sont porteurs de la mort et de la résurrection du Christ. Ils sont porteurs d'un amour inouï qui n'est pas entendu même par eux-mêmes, sans le savoir. Souvent, nous aussi, nous sommes porteurs d'un amour inouï, mais nous ne le savons pas. Par définition, un martyr est porteur d'un amour inouï. Car si l'amour dont il était porteur avait été entendu par ses bourreaux, il ne serait pas mort, par définition. Les martyrs, les derniers martyrs qui viennent d'être béatifiés, les martyrs de Tibirine, Pierre Claverie, les martyrs d'Algérie, si ceux qui les ont mis à mort avaient entendu l'amour inouï dont ils étaient porteurs, ils ne les auraient pas mis à mort. Le martyr, par définition, est toujours porteur d'un amour inouï qui, au sens propre, n'est pas entendu par l'autre.
Les moines de Tibirine sont restés jusqu'au bout dans cette terre d'Algérie, quel que soit ce qui pouvait leur arriver, car ils voulaient dire l'inouï de l'amour de Dieu pour ce peuple d'Algérie. Ces frères musulmans, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes nos frères. Peut-être ne l'entendez-vous pas, mais vous l'êtes. Les martyrs sont toujours porteurs d'un amour inouï, pas entendu, pas reconnu, pas accueilli. Nous aussi, dans nos équipes du Rosaire, si nous cheminons régulièrement en équipe, grâce à notre feuillet mensuel, pour apprendre avec Marie à écouter la parole et à la garder dans notre cœur, c'est pour que cette parole affine notre oreille. Nous aussi, nous sommes sourds, nous avons certaines surdités. Il faut nous déboucher régulièrement les oreilles, car nous n'entendons pas, nous n'entendons plus. L'inouï, ça n'est pas l'extraordinaire. Ce n'est pas l'extraordinaire qui surgit dans ma vie, c'est souvent l'inouï, c'est ce qui est là et que je ne vois pas. C'est là depuis tellement longtemps à côté de moi, mais par l'habitude, l'usure des mots, l'habitude, je ne vois plus, je n'entends plus ce qui est là dans mon quotidien. Et le fait de nous réunir dans nos maisons, le lieu du quotidien, c'est apprendre aussi à voir l'inouï de Dieu qui se manifeste dans mon quotidien, dans ma maison. L'inouï, ça n'est pas l'extraordinaire, c'est le plus quotidien que je ne vois plus, que je n'entends plus. C'est bien la situation de nos deux disciples. L'inouï est là, tout près d'eux, avec eux, marchant avec eux. Mais ils ne l'entendent pas, et plus encore, ils ne le voient pas. Sur ce chemin de tristesse, nous nous sommes laissés rejoindre, comme nos deux disciples, pour entendre l'inouï. Inouï de ce que je suis, de mon nom, inouï de mon frère, l'étranger, inouï de celui qui parle en moi, et pourtant que je n'entends pas. Mais converser avec Jésus nous a remis en chemin. Vous avez entendu tout à l'heure, ils s'arrêtèrent tout tristes. Et à aucun moment, on nous dit qu'ils se sont remis à marcher. Et pourtant, à un moment donné, ils arrivent à ce fameux village d'Emmaüs. Donc c'est qu'à un moment donné, ils se sont donc bien remis en route. Jésus les a arrêtés, mais en même temps, il les a remis en chemin. Il a réorienté leurs pas. Ils ont quitté le chemin de la mort, du fratricide originel, pour aller vers le chemin de la communion. Et leurs pas leur fait s'approcher de ce fameux village d'Emmaüs. Jésus nous a remis en chemin, et alors nous arrivons à Emmaüs. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Si Jésus nous a conduits, comme nos deux disciples, à l'auberge d'Emmaüs, c'est pour vivre une Pâque, c'est-à-dire un passage. Et qu'est-ce qu'une Pâque ? Eh bien, c'est toujours passer des ténèbres à la lumière. Vivre une Pâque, mais où ça ? Eh bien, à Emmaüs. Mais où est Emmaüs ? Personne ne sait dire où est Emmaüs. Aucun archéologue, même le plus pointu de la Terre Sainte, ne peut vous dire où était ce fameux village d'Emmaüs. Alors, on s'entend sur certains lieux. Si vous êtes allé en Terre Sainte, vous êtes peut-être allé à Abou Ghosh, chez les fameux moines olivétains. C'est aussi Kiryat Yéharim, le lieu où l'Arche d'Alliance est partie pour... que David est venu chercher pour le conduire à Jérusalem, dont il avait fait sa capitale. Vous verrez une belle église de croisée, mais était-ce Emmaüs ? Nul ne le sait. Était-ce véritablement à l'ouest de Jérusalem, là sur la route qui nous reconduit à l'aéroport de Tel Aviv, quand nous sommes pèlerins, nous aussi sur les chemins de la Terre Sainte ? Était-ce plutôt au nord, à l'est ou au sud ? Nul ne le sait. Et peut-être qu'il y a quelque chose à tirer spirituellement de cette incapacité à cartographier Emmaüs. Emmaüs, c'est partout.
où la lumière jaillit dans les ténèbres. C'est partout où les ténèbres sont vaincues par la lumière. C'est bien ce qui se passe dans cette auberge d'Emmaüs. Leurs yeux s'ouvrent. Nos deux disciples naissent à la lumière de Pâques. Et vous savez que naître à la lumière, ça n'est rien d'autre que vivre en baptisé. Le premier nom du baptême, c'était l'illumination. On parlait de l'illumination. Ça ne veut pas dire qu'on était des illuminés. Aujourd'hui, c'est... Mais même si les gens aujourd'hui nous prennent pour des illuminés, nous chrétiens, puisqu'ils ne comprennent plus notre foi. Mais nous avons été illuminés par le Christ. Comme les deux disciples d'Emmaüs, nos yeux se sont ouverts sur sa présence à nos côtés. Et tout le rite du baptême manifeste cela. Quand on était baptisé dans les premières communautés chrétiennes, plongé dans cette cuve baptismale, eh bien on entrait du côté des ténèbres, l'Occident, du côté du soleil mourant, et on descendait dans la cuve baptismale et on ne reprenait pas le chemin inverse. On sortait du côté de l'Orient, du soleil levant. Et on était revêtu d'une aube, d'un vêtement blanc. L'aube, c'est ça, le vêtement blanc. Alba, le blanc. La lumière, ce qui reflète la lumière. On recevait une onction d'huile. L'huile rend notre visage luisant, lumineux. Voyez que toute la liturgie du baptême, et aujourd'hui on remet un cierge aux parrains et aux marraines, toute la liturgie du baptême dit cette naissance à la lumière. C'est ce qu'ont vécu nos disciples d'Emmaüs. En se laissant conduire à l'auberge d'Emmaüs, ils ont été conduits à la source de la foi. Ils vivent un baptême. Et l'auberge d'Emmaüs, on peut la voir. Souvent on se dit, oh, c'est une belle auberge, on va pouvoir se restaurer. Une belle maison comme le domaine Saint-Joseph, on est bien assis, c'est confortable. Mais on peut très bien voir cette auberge aussi comme un tombeau. Jésus a conduit, marchant avec nos deux disciples, eux qui n'étaient pas allés au tombeau, vous l'avez entendu. Ils disent, leurs compagnons sont allés au tombeau, les femmes sont allées, mais nous on n'y est pas allés. Alors Jésus dit, moi je vais les y conduire. Et c'est peut-être ça Emmaüs, le lieu du tombeau. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Il les fait descendre au tombeau pour leur faire vivre une Pâque. Regardez comment, quand ils arrivent à Emmaüs, c'est les ténèbres. Déjà le jour baisse, disent-ils. Le lieu des ténèbres, c'est le lieu du tombeau, la mort. Et Jésus n'est pas pressé d'y entrer. Lui, le vivant parmi les vivants, il ne veut plus revoir ce lieu de la mort qu'est le tombeau. Et il semble hésiter à y entrer. On peut voir l'auberge d'Emmaüs, le texte nous montre un peu ce comme un lieu de mort, de tombeau, où Jésus veut descendre avec eux. Oui, en entrant à Emmaüs, nos deux disciples sont conduits aux sources de la foi, le tombeau, d'où là où va renaître, jaillir la vie. Car le tombeau, c'est aussi le lieu du corps brisé, partagé, rompu. C'est bien ce que va faire Jésus dans cette auberge d'Emmaüs. Rompre à nouveau son corps devant eux et le partager. C'est cela qui va ouvrir leurs yeux. On voit donc que l'auberge d'Emmaüs est à la fois le baptême et l'Eucharistie. Les deux sources, les deux piliers de notre foi. Sans ces deux sources, nous ne pouvons pas vivre en chrétien. Nos deux disciples d'Emmaüs ont donc été plongés aux sources de la foi que sont le baptême et l'Eucharistie. Nos premiers martyrs de Lyon, eux aussi, eh bien, auraient pu rester dans les ténèbres. On aurait pu ne pas connaître ce qui s'est passé à Lyon en 177. Mais sans doute, d'après les historiens, Irénée, qui a succédé à cette première communauté chrétienne, qui est le successeur de Potin, eh bien Irénée a rédigé une lettre, c'est sans doute lui l'auteur de cette lettre, que nous livre Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Cette lettre des églises de Lyon et de Vienne aux églises d'Asie, donc d'où venaient la plupart des premiers chrétiens, eh bien, nous permettent de connaître, de mettre en lumière ce qu'ont vécu nos martyrs de Lyon. Nos martyrs ne sont donc pas restés dans les ténèbres, mais ils sont entrés dans la lumière grâce au témoignage d'Irénée. Moi aussi, quand je reçois l'équipe dans ma maison, en accueillant le partage de la parole comme on partage le pain, eh bien ma maison s'illumine de la présence du ressuscité. Ma maison devient auberge d'Emmaüs. Et je suis invité, avec mes coéquipiers, à vivre une Pâque. Vivre une Pâque, c'est comme passer une porte. Jésus entra avec eux, nous dit le texte. Passer une porte, c'est toujours faire trois choses, sortir d'eux, passer par cette porte et entrer dans. Alors nos deux disciples, ils sont sortis de leurs ténèbres. Ils sont passés par l'hospitalité partagée avec Jésus et ils sont entrés dans une fraternité élargie puisque bientôt ils vont courir à Jérusalem à la rencontre de leurs frères. Nos martyrs de Lyon, eux aussi, de par leur martyr, vous savez, ils vivaient en chrétien, mais à l'époque, il n'y a pas d'église, de bâtiment à église, on se réunit dans des maisons-églises, comme nos équipes du Rosaire. Ce sont des maisons où les premiers chrétiens se rassemblaient. Il n'y avait pas de bâtiment à église, puisque le christianisme n'était pas encore reconnu comme une religion officielle de l'Empire, et les chrétiens étaient encore persécutés. Et donc, les chrétiens, en étant repérés comme chrétiens, étaient sortis de leur clandestinité, d'une certaine façon. Et puis, condamnés à mort, ils ont dû passer la mort pour entrer dans la vie. Nos équipes du Rosaire, à leur suite, à la suite de ces martyrs de Lyon et de nos disciples d'Emmaüs, sont aussi appelés à sortir d'eux, passer par et entrer dans. Elles sont appelées, nos équipes, à sortir de leur peur, pour aller aux périphéries, car on trouve rarement une porte au centre d'une pièce. Si on veut trouver la porte et passer par la porte, il faut se déporter aux périphéries pour tenter de trouver le passage et vivre la Pâque et agrandir la fraternité, c'est-à-dire trouver des frères que je laissais là à la périphérie de mon monde qui n'existaient pas pour moi et qui peuvent devenir alors mes frères. C'est cela le chemin d'Emmaüs. Vivre une Pâque, un passage qui me sort de mes peurs pour aller vers l'autre et découvrir qu'ils sont mes frères. Mais vivre une Pâque, c'est aussi laisser circuler la vie, ne pas la retenir. Nos disciples disent à Jésus, reste avec nous, ils cherchent à le retenir. Et puis dès que leurs yeux s'ouvrent, tout d'un coup Jésus s'échappe. Il n'est déjà plus là, il disparut à leur regard. La vie nouvelle, la vie du ressuscité, ne se retient pas. Elle ne nous appartient pas. Nous n'en sommes pas propriétaires. Elle passe en nous, par nous, à travers nous. Eux aussi, les martyrs, n'ont pas retenu la vie qui passait à travers eux. Et parce qu'ils n'ont pas retenu la vie, ils l'ont reçue en plénitude. Dans nos équipes du Rosaire, paradoxalement, c'est peut-être le fait de ne pas chercher à retenir l'autre qui est la meilleure manière de lui donner envie de rester. Vous savez, si vous cherchez à capter l'autre, à mettre la main sur lui, si l'autre ne se sent plus libre, eh bien, vous allez le faire fuir. Inviter est la meilleure manière de respecter la liberté de l'autre, de la solliciter. N'hésitons pas à inviter, mais ne mettons jamais la main sur l'autre. Respectons toujours sa liberté. La vie ne nous appartient pas. Comme les deux disciples, apprenons à ne pas capter l'autre, mais à le laisser aller. Il est passé par nous, entre nous, au milieu de nous, mais il ne nous appartient pas. Déjà, il va vers l'autre. Paradoxalement, c'est donc en ne cherchant pas à retenir l'autre que l'autre, d'une certaine façon, se sentira le plus invité dans nos équipes et aura envie de rester. Si donc nous avons été conduits et rejoints sur notre chemin de tristesse, c'est pour entendre l'inouï et vivre une Pâque, vivre un passage de la mort à la vie, à la suite des disciples d'Emmaüs et des martyrs de Lyon. Mais c'est aussi, bien sûr, pour renaître. Renaître aux sources de la foi, ici à Lyon, c'est le lieu, mais renaître à quoi exactement ? Eh bien, renaître au témoignage. à la mission. Vous savez que martyr en grec veut dire témoignage, et quand on parle du témoignage des martyrs, c'est comme une redondance. Car martyr veut déjà dire témoin. Et nos deux disciples, eh bien, ayant rencontré le ressuscité, ils ont marché pendant 2 heures, puisqu'Emmaüs est à 2 heures de marche de Jérusalem. Il fait nuit, mais ils n'attendent pas que le jour se lève. Il y a urgence. Ils ne prennent pas le temps de se reposer. Alors ils viennent de partager le pain, ça leur donne des forces. Mais la nuit est là. On ne voit plus le chemin. Et le cœur brûlant, ils s'élancent dans la nuit. Il y a comme une urgence chez nos disciples d'Emmaüs à aller annoncer celui qu'ils ont rencontré. Ils n'attendent pas que le jour se lève pour s'élancer dans la nuit. Souvent, c'est l'urgence, c'est la pression des événements qui nous conduit à la mission. On parle beaucoup de la mission, vous savez. Il faut être missionnaire, il faut aller à la mission, mais souvent, vous savez, en réalité, on a du mal à y aller. On préfère rester dans son confort. Et souvent, c'est la pression des événements qui nous force à devenir missionnaire. Vous savez, c'est comme ça pour la première église. Quand on regarde le chapitre 7 des Actes des Apôtres, le premier martyr, après Jésus d'une certaine façon, son martyr sur la croix, le premier martyr, Étienne, Saint Étienne, dont le martyr est relaté au chapitre 7 des Actes des Apôtres, c'est à la suite du martyr d'Étienne et de sa lapidation que la première communauté va enfin réussir à quitter Jérusalem et s'avancer sur des chemins nouveaux de la mission. C'est souvent quand le plus terrible arrive, le plus dramatique, que la communauté se ressaisit d'une certaine façon et s'élance vers la mission. C'est souvent sous la pression des événements. On n'y va jamais de gaieté de cœur. Ah, il y a eu la Pentecôte au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Mais finalement, quand on regarde, les disciples étaient toujours un peu autour de Jérusalem. Il faut le martyr d'Étienne pour que vraiment la mission devienne universelle. Souvent, c'est sous la pression des événements que nous devenons vraiment missionnaires. Et c'est souvent quand notre Église, et c'est bien ce qu'elle traverse aujourd'hui, de graves crises, que nous sommes comme conduits, condamnés à renaître. Notre Église est condamnée à renaître. Elle est tombée tellement bas qu'elle est condamnée à renaître. Et souvent, nous sommes condamnés au témoignage. À un moment donné, nous sommes comme conduits par une forme d'urgence. Il y a urgence. Il faut que quelque chose surgisse de toute cette noirceur. Il faut se ressaisir. Il faut se relever. Nous aussi, équipe du Rosaire, nous ne devons pas attendre que la nuit s'achève pour nous lancer dans la mission. Nous ne pouvons pas attendre que les choses aillent mieux dans notre vie. Certes, notre diminution progressive suit une certaine attrition de tous les mouvements, de toute notre vie d'église, ici en France, en Occident. Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela et attendre que les choses aillent mieux globalement dans l'Église, dans la société, pour que nous aussi nous allions mieux. Sans attendre, comme les disciples d'Emmaüs, nous devons nous aussi nous lancer dans la mission. Mais attention, la mission, renaître au témoignage, témoignage oui, mais la résurrection ne s'impose pas. Témoigner, ça n'est jamais imposer à l'autre notre foi. On voit bien que le ressuscité ne s'impose pas auprès de nos deux disciples d'Emmaüs. Il marche longuement à leur côté sans se faire reconnaître d'eux. Il y a un grand respect. Il ne s'impose pas. Il n'impose pas sa présence. Et il faut souvent dans la mission ménager de longs cheminements, comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Depuis le temps qu'on les fait marcher, ces deux-là, ils doivent avoir les souliers usés. Ils marchent avec Jésus depuis tant d'années et on les fait marcher que... Mais c'est ces longs cheminements qu'on ne peut pas zapper. On ne peut pas rêver que l'autre est déjà là dans ma maison, comme dans une auberge d'Emmaüs. Il faut d'abord longuement cheminer avec l'autre, sans jamais rien apposer. Et c'est souvent une présence discrète, comme la présence du ressuscité, qui prépare souvent les plus belles rencontres. Nos martyrs de Lyon aussi ont été cette présence discrète, mais réelle, au sein de cette ville de Lyon, à travers les maisons où était pratiquée l'hospitalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, L'église des premiers chrétiens, c'est une église de maisonnée. On s'est réunis dans des maisons parce qu'on est minoritaire. Il n'y a pas d'église, de bâtiment à église où se rassembler. Et se rassembler dans les maisons, c'est à la fois être discret et en même temps être témoin. Car dans les premiers siècles de notre ère, on se déplace beaucoup. Nos premiers chrétiens, je vous ai dit, viennent de loin. Il y a beaucoup de déplacements, de routes commerciales. Et donc, on pratique beaucoup l'hospitalité dans les maisons, surtout dans les cités romaines comme Lyon. Beaucoup de gens passent et on les accueille dans notre maison. Et accueillir l'autre qui n'a pas la même foi que moi dans ma maison, c'est aussi une manière de lui proposer ma foi, de lui annoncer ma foi. Se réunir dans les maisons et pratiquer l'hospitalité comme les premiers chrétiens le faisaient, c'est donc ménager une forme de discrétion et en même temps une publicité. Les équipes du Rosaire perpétuent à leur manière, en se rassemblant dans les maisons, l'expérience des églises domestiques de cette église des premiers siècles. Finalement, elles vivent une mission de proximité entre publicité et discrétion. Oser dire et en même temps demeurer assez discret, comme le ressuscité sur les chemins d'Emmaüs. Témoigner, c'est certes ne pas imposer l'autre, ne pas imposer sa foi, mais c'est aussi commencer par écouter. En effet, quand nos deux disciples sortent de l'auberge d'Emmaüs, ils arrivent à Jérusalem, mais ils ne disent pas « Le Seigneur est ressuscité, on l'a vu !» Ils commencent par écouter le témoignage des autres. C'est les autres qui leur parlent. C'est les apôtres qui leur livrent leur témoignage. À l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem, ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons et leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » Les deux disciples commencent donc par se taire. Et la mission, ça commence souvent par là, une grande écoute. Une grande écoute pour accueillir le témoignage de l'autre. Saint Irénée, dont on ne peut pas ne pas parler, puisque nous sommes dans un amphithéâtre qui lui est en quelque sorte dédié, et que nous sommes à Lyon, Saint Irénée a écrit une grande œuvre qui s'appelle « L'adversus aereses », ça veut dire « le contre les hérésies ». Ou plutôt... contre la gnose au non-menteur. Mais finalement, ces doctrines gnostiques, nous ne les connaissons pas véritablement. Si nous les connaissons, c'est parce qu'Irénée consacre les premiers livres de son ouvrage à la doctrine de la gnose. Il fait place donc, dans son œuvre, dans son ouvrage, à une pensée qui n'est pas la sienne. Et grâce à Irénée, nous pouvons connaître ce que pensaient ses contradicteurs. Il fait donc une place à l'autre. Il écoute d'abord l'autre, leur doctrine gnostique, avant de leur annoncer l'évangile du Christ. Irénée, dans cette posture d'accueil de la doctrine de l'autre, pour mieux être en capacité d'y répondre. Nous aussi, dans nos équipes du Rosaire, dans le partage fraternel, et particulièrement, vous savez, dans la fameuse réflexion pour notre vie, où on essaie de proposer des questions, des pistes de réflexion pour le partage fraternel, nous apprenons aussi à écouter l'autre, à écouter le témoignage de l'autre et à le respecter, à faire une place à l'autre, comme nos deux disciples d'Emmaüs débarquant à Jérusalem commencent d'abord à écouter le témoignage de l'autre. Témoigner, c'est donc d'abord et avant tout peut-être commencer par écouter. Écouter le Seigneur qui nous parle. Eh bien, voilà, j'ai essayé de vous conduire sur ces chemins d'Emmaüs ce matin, à la suite des martyrs de Lyon. Chemin de tristesse, qui sont devenus chemins de consolation. Chemins sur lesquels nous sommes appelés à entendre ce que nous n'entendons pas, l'inouï, pour vivre un passage, une Pâque, et renaître au témoignage. C'est cela notre chemin, le chemin que nous voudrions vivre lors de ce Conseil national, et en nous rendant particulièrement ce soir en pèlerinage sur le site des martyrs de Lyon. Et n'oublions pas que ce chemin d'Emmaüs, nous ne l'avons pas parcouru simplement ensemble ce matin, nous le parcourons à chaque fois que nous méditons notre feuillet mensuel. Car vous le savez, dans notre feuillet mensuel, l'accueil, la prière à l'Esprit-Saint et l'invocation à Marie sont des manières, comme les disciples d'Emmaüs dans leur première étape, de nous laisser rejoindre sur notre chemin. Ces trois premières étapes nous permettent de nous laisser rejoindre, nous aussi, sur notre chemin, par le Christ, comme nos deux disciples d'Emmaüs. L'écoute de la parole et la réflexion sur la parole, et pour notre vie, nous permettent d'entendre l'inouï. Cheminant avec Jésus, comme les deux disciples d'Emmaüs, alors nos oreilles s'ouvrent. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, alors qu'il nous parlait sur le chemin? Nous apprenons, comme les deux disciples d'Emmaüs, à écouter sa parole et à nous laisser réchauffer le cœur par lui. La prière de louange et d'intercession, où nous achevons la dizaine ensemble en partageant nos intentions, nous permettent aussi de partager notre vie. En partageant nos intentions, ça n'est rien d'autre que notre vie que nous livrons aux autres. Et parfois, vous savez, par discrétion, on écrit ses intentions sur des petits papiers, on dépose sur une corbeille auprès de la statue de la Vierge, et les autres tirent, et comme ça, il y a une discrétion absolue sur les intentions. On ne sait pas qui l'a écrite, mais on la porte ensemble. Eh bien, quand nous partageons notre vie dans ces intentions, nous sommes comme Jésus dans l'auberge d'Emmaüs, nous partageons notre vie à l'autre. Et nous vivons une Pâque, un passage. Nous ne retenons plus la vie pour nous, nous la laissons passer en nous, à travers nous. Et nous la partageons, nous la livrons à nos frères, en toute confiance. Et enfin, vous le savez, sur fond plus orangé de ce feuillet, l'envoi en mission nous aide à renaître au témoignage. C'est donc bien un chemin d'Emmaüs que nous parcourons à chaque fois que nous feuilletons notre feuillet et que nous le célébrons en équipe. Se laisser rejoindre sur un chemin, entendre l'inouï, vivre une Pâque pour renaître au témoignage, c'est bien cela que nous vivons, sans parfois même en avoir tout à fait conscience. Et si nous vivons ce chemin d'Emmaüs, c'est bien pour renaître, pour que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Ce matin, il s'agissait d'entrer dans notre Conseil national sous un angle plus spirituel. Demain matin, nous vous présenterons plus concrètement comment nous, tout au long de l'année que nous venons de vivre avec le comité national, nous avons essayé de vivre ce chemin d'Emmaüs. Comment nos oreilles et nos yeux se sont ouverts sur des pistes à explorer pour renaître au témoignage, au martyre, pour renaître à la mission. Nous aussi, nous voulons nous faire martyrs, témoins de la bonne nouvelle, en faisant mieux connaître nos équipes du Rosaire. Et c'est pourquoi demain matin, nous vous proposerons le résultat de notre chemin d'Emmaüs. Comment nos yeux se sont ouverts, comment nos oreilles se sont ouvertes sur des chemins et des pistes de renaissance à explorer pour notre mouvement. Nous avons à le vivre et à le revivre ici, aux sources de la foi, à Lyon. Eh bien, demandons à nos chers martyrs de Lyon qui nous ont accompagnés, comme les deux disciples ce matin, de nous donner la grâce de renaître à ce témoignage. Merci de votre attention.